Le prochain intervenant est égyptologue également, c'est Sidney Aufrère, directeur de recherche émérite au CNRS à Aix-Marseille Université. Là encore, il serait trop long de faire une présentation exhaustive de l'ensemble des travaux de Sidney Aufrère. Tous les égyptologues connaissent sa thèse monumentale sur l'univers minéral chez les anciens Égyptiens. Il a aussi était l'artisan d'œuvres collectives à Montpellier, notamment cette encyclopédie de l'univers végétal. Il a aussi publié de nombreuses contributions sur l'historiographie égyptologique et puis sur Manéthon notamment. Et aujourd'hui, il va nous parler des hiéroglyphica d'Aurapollon, un héritage de la philosophie égyptienne au 5e siècle de notre ère.
Merci Laurent pour cette présentation et merci Jean-Luc d'avoir eu le courage d'organiser cette très belle rencontre qui sera certainement extrêmement productive. Alors d'après une documentation faisant consensus suite à la brillante édition par Jean Maspero du document découvert dans les archives de Dioscore d'Aphrodite, je m'efforcerai en premier lieu de rassembler un choix d'éléments permettant d'ouvrir une perspective entre, d'une part, un milieu défendant des traditions égyptiennes et, d'autre part, les hiéroglyphica, dont l'auteur présumé serait un certain Aurapollon d'Iliaque, rapproché, comme vous savez, de Flavius Aurapollon, fils d'Asclépiades et qui a vécu donc dans la seconde moitié du 5e siècle. Et en second lieu, de réfléchir à la philosophie égyptienne, en prenant cette expression entre guillemets, contenue dans cette œuvre, qui serait contenue dans cette œuvre. Alors, Aurapollon est issu d'une famille originaire de Phénébitis, dans le Panopolite, et même s'il se qualifie de philosophe, ayant acquis, de son point de vue, une certaine renommée, il dispense un enseignement dans les académies d'Alexandrie, à qui désire être instruit dans ce domaine, d'autant que les académies d'Alexandrie et d'Athènes jouissent d'une réputation qui, Raymond Dixite, attire les jeunes gens, je cite, de tout l'Orient, l'Égypte, Palestine, Syrie, Asie mineure. Fin de la citation. Comme son père Asclépiades, qui professait dans les musées, et sans doute comme le demi-frère de ce dernier, Héraïskos, il enseigne le platonisme. Mais on peut suspecter, ainsi qu'on le verra, qu'il s'inscrivait dans un courant de pensée initié par des médioplatonistes tels que Plutarque et Numinius d'Apamée, qu'il est d'usage de nommer, d'après l'étude de Zlatko Plesché en 2005, médioplatoniste orientaliste. Les lieux fréquentés par Asclépiades, Héraïskos et Aurapollon II sont les musées et les académies d'Alexandrie, rivales de l'école théologique d'Alexandrie, qui après Clément d'Alexandrie, qui représente l'apogée du Didascalée, défend un christianisme philosophico-compatible. Le père, l'oncle et le fils se sont élevés dans la hiérarchie intellectuelle, puisque le grand-père d'Aurapollon, Aurapollon I ou Aurapollon l'Ancien, savant réputé, exerça lui Alexandrie à Constantinople, sous le règne donc, de Théodose II, la profession de grammaticos ou grammairien, sans être pour autant, cela est important, véritablement impliqué dans la défense de croyances égyptiennes. Que cette famille eût entretenu des liens privilégiés avec Ménoutis, village qui s'avérait un foyer traditionnaliste autour d'un culte d'Isis, éveille l'intérêt. Selon l'arétalogie d'Oxyrhynque, l'Isis de Ménoutis portait l'épithète de vérité à l'Étéia. D'après Dominique Montserrat, la raison en aurait été la fiabilité de ses oracles, puisqu'elle disait l'avenir et était implorée comme déesse guérisseuse. Attirant de nombreux pèlerins, le site de Ménoutis était encore réputé au IVe siècle pour des scènes de liesse et d'orgie, et Sophrone de Jérusalem, au IVe siècle, au VIe siècle, explique que du temps de Cyril d'Alexandrie, un daimon nommé Ménoutis attirait chrétiens et païens pour les deux raisons susdites. Dans la continuité, à l'époque de l'affaire dite de Ménoutis, les chrétiens substituèrent à cette déesse oraculaire et guérisseuse les reliques des saints Zanargyr, Cyr et Jean. Ajoutons qu'à Canope, toujours selon l'arétalogie d'Oxyrhynque, on adorait une autre Isis, conductrice des muses, mentionnée juste avant l'Isis Vérité de Ménoutis. Il se trouve qu'à ces deux aspects d'Isis de Ménoutis et de Canope, respectivement associés à la vérité et aux muses, font écho les propos de la dédicace de Plutarque à Cléa dans son Isis et Osiris, lequel décrit l'Isis philosophe qui permet d'accéder à la vérité divine et philosophique, et l'Isis conductrice des muses, celle des sciences et des arts, médiatrice selon Platon et les néoplatoniciens entre Dieu et le concepteur, muse associée à Apollon, dieu des intellectuels. Dans la banlieue d'Alexandrie, en lien avec Canope, Ménoutis semble faire figure de bastion médioplatoniste sur la base d'une synthèse religieuse égypto-grecque. Anticipons en disant qu'il s'y joue depuis le règne de Cyril d'Alexandrie et de son oncle Théophile un bras de fer entre les autorités religieuses alexandrines et les philosophes platonistes alexandrins qui trouvent en la personne d'une Isis populaire une déesse réunissant encore païens et chrétiens. C'est tout dire que Apollon, le philosophe, s'inscrivant dans la ligne d'une pensée familiale, défend sous le manteau, avec son père Asclépiades et son oncle Héraïskos, un médioplatoniste orientaliste jusqu'à en subir les conséquences, si l'on en croit l'affaire de Ménoutis et le fait qu'il est, avec Héraïskos, impliqué et mis à la question. Ils sont d'ailleurs tous les deux, qu'on dit pendus, qu'on dit par les mains, à en croire Damasius, par les chrétiens, pour les obliger à dénoncer un des leurs au moment où éclate l'affaire de Ménoutis, qui sonne comme le glas de cet îlot de résistance traditionnaliste. En bref, le père, le fils et l'oncle de celui-ci ont choisi la voie de la philosophie parce que seule celle-ci fournit les outils permettant de défendre la tradition égyptienne Alexandrie et dans ses environs. Dans ce milieu alexandrin, où cercle philosophique païen rime avec traditionnalisme égypto-grec, on a véritablement affaire à des gens prêts à subir le martyre et qui peuvent reprocher à certains d'être timorés dans leur foi, critique d'ailleurs qu'émet Héraïskos à l'égard de son neveu Apollon II, pourtant à ses côtés dans l'épreuve. Tandis qu'Héraïskos prophétise, selon Damasius, que son neveu abandonnera les lois des ancêtres, lui-même se fera embaumé de façon traditionnelle par son frère Asclépiades, ce qui en ce temps-là est une marque identitaire très forte. En tout cas, les reproches d'Héraïskos semblent injustifiés, comme on le verra, puisque son neveu est loin, si on veut bien me passer cette expression, d'être un traditionnaliste en peau de lapin. Il me semble qu'on a là résumé des éléments permettant de dépeindre un milieu ayant pour objectif de défendre des valeurs syncrétiques gréco-égyptiennes. Si Apollon est présent dans la Souda comme un Égyptien, ce terme naturellement ne doit pas être pris au pied de la lettre, comme un nom grec, une définition ethnique restrictive n'a plus de sens à l'époque dont on parle. Mais le nom Apollon, porté par lui et son grand-père, constitué d'un doublé égypto-grec, illustre une volonté de proclamer un syncrétisme gréco-égyptien, d'autant que ce nom double, selon Olivier Masson, est un apax. En outre, Panopolis et sa région, connues pour leur conservatisme religieux et dont la famille est originaire, fournissent un terreau favorable aux traditions ancestrales, si l'on en croit les textes laissés par un contemporain connaissant bien les mœurs de Panopolis, l'archimandrite Sinouté, la Frippée. Si on récapitule, le grand-père Apollon est un grammairien ayant acquis une solide réputation dans le monde grec jusqu'à Constantinople. Ses deux fils, des demi-frères, bien que philosophes, offrent deux visages différents mais complémentaires. Le premier, Héraïskos, sorte de mystique exalté, est un défenseur fanatique de la foi des ancêtres. Le second, Asclépiades, aurait été plus savant dans la sagesse égyptienne, s'étant penché pendant longtemps sur les livres égyptiens, et en particulier en matière de théologie. Le fils d'Asclépiadès, rappelons-le, s'inscrit dans le sillage de son père et on pourrait penser qu'il hérite de connaissances familiales communes à Héraïskos et à Asclépiadès et à celle du milieu des philosophes défenseurs de la tradition égyptienne, un milieu aristocratique d'origine panopolitano-thébaine dont Raymondon brosse un portrait qui n'est sans doute pas suffisamment représentatif. Le second Aurapollon fait donc figure d'intellectuel engagé dans la défense de la tradition qui, de guerre lasse, finit par se laisser convertir au christianisme sans pour cela dire clairement en quel dieu il croyait. On voit bien que tout porte à croire que la famille adopte à partir des deux demi-frères la stratégie de combattre aux avant-postes alexandrins pour faire entendre la voix de la tradition égypto-grecque sur le terrain des idées. Dans cet affrontement, seuls les chrétiens restent en lice. L'influence intellectuelle des juifs s'est considérablement amoindrie, puisque cette communauté de 40 000 âmes a été chassée d'Alexandrie par Cyrille lors des affrontements intercommunautaires de 1515. Mais on ne peut exclure à ce moment-là que l'œuvre de Philon d'Alexandrie, qui considérait avec dérision les croyances égypto-alexandrines et le meurtre d'Hypatie ayant révulsé les païens, avait suscité des vocations antichrétiennes, antijudéennes. On aura donc compris que, sous couvert d'enseigner la philosophie, Aurapollon, qui adopte la posture nationaliste prônée par la lignée familiale, se donne, sur une base médioplatoniste, des facilités pour défendre les valeurs proprement égyptiennes et à soutenir l'effort visant à maintenir vivante la dernière expression des cultes. Et cela conduit, comme annoncé, à réfléchir à la nature possible des hiéroglyphica en ne considérant que le premier tome. C'est là qu'intervient une autre notion, puisque, admettant le 5e siècle comme date de rédaction du livre premier des hiéroglyphica, ce dernier fait figure de conservatoire des dernières manifestations de la philosophie égyptienne, on va dire entre guillemets. Cela amène à distinguer ce que les auteurs anciens, plusieurs siècles avant Aurapollon, considéraient comme philosophie égyptienne et enfin le reflet, dans la perspective de la fin du paganisme et de l'acharnement des chrétiens contre les hiéroglyphes, que livre l'auteur de Aurapollon en Iliaque, d'une telle philosophie à ses contemporains. La question que l'on peut se poser est de savoir si le contenu des hiéroglyphica, ayant traversé les siècles jusqu'à la publication sur les presses d'Alemanucci en 1515 à Venise, du manuscrit que nous a présenté tout à l'heure Jean-Luc Fournet, était déjà considéré comme une bouteille jetée à la mer et contenant un précieux héritage. Dans un article intitulé « Sous le vêtement de l'un du prêtre Isiac, le philosophe », paru en 2016, j'ai rassemblé un petit florilège d'extraits permettant de comprendre à quoi se rapporte cette idée de philosophie prêtée aux prêtres égyptiens, en précisant que par prêtre, on parle d'une catégorie restrictive. Je les résume ici par ordre chronologique, en précisant que les mots philosophe et philosophé sont loin d'être des mots vagues dans la bouche de ceux qui les emploient. En premier lieu, Kérémon d'Alexandrie indique que les Égyptiens considèrent leurs prêtres à l'abri de leur temple comme des philosophes vivant à l'écart des non-prêtres, c'est-à-dire que le fait de philosophie selon la vérité est le privilège de prêtres de haut rang, prophètes, stolistes, hiérogrammates et horologues, tandis que les pastophores, qui ne philosophent pas et dont l'activité est restreinte aux technaïs médicales, sont contraints de mener une vie pure, mais moins austère, ce que corrobore le gnomon de l'idéologue, ainsi que la classification du clergé et des 42 livres de Clément d'Alexandrie, sur qui l'influence de l'œuvre de Kérémon est sensible. Quant à Plutarque, cadet de Kérémon, également très inspiré par ce dernier, quoiqu'en masquant la dite influence, il souligne que pendant les périodes de purification où ils font abstinence de vin, je cite, « ils consacrent leur temps à philosopher à propos des choses divines, à les apprendre et à les enseigner ». Par conséquent, la philosophie égyptienne, qui réside dans l'approche de la vérité au sens philosophique, qui est de traiter des choses divines, selon Plutarque, est assujetti à un niveau d'ascèse, élevé d'ailleurs, décrit par Quérémon. Sous réserve d'atteindre ce niveau d'ascèse, quelle nature, du point de vue de Plutarque, les Égyptiens donnent-ils alors à l'activité philosophique égyptienne ? Elle se définit à partir de plusieurs extraits. L'auteur pense que l'essentiel de la philosophie à laquelle participe le roi, qui compte parmi les prêtres, réside dans les mythes et les récits, mutoi et logoi, dans lesquels on voit percer la vérité, ce qui exclut ce que nous rapprocherions non pas des sciences exactes, mais des artes ou technaï, idée confirmée par un passage de Clément d'Alexandrie, dont le lien avec l'œuvre de Quérémon peut être mis en évidence. En effet, le texte de Clément, Stromate 6.38.1, montre que le fond philosophique est fourni par 36 livres sur les 42 d'Hermès, alors que les technaï médicales sont aux seules mains des pastophores, eux non philosophes, en représentent 6. Ailleurs, Plutarque apporte un nouvel élément concernant la nature de la philosophie égyptienne, puisqu'il précise que cette dernière repose sur le principe d'une double lecture des éléments mythiques, ce qu'il explique à propos des interdits, comme celui du poisson, très répandu chez les prêtres égyptiens. Cet interdit peut être considéré en vertu d'une explication, je cite Plutarque, soit religieuse et remarquable, première donc explication, soit évidente et ordinaire. Il faut cependant observer que le principe de la double lecture, pratique métatextuelle élaborée, est commune au peuple, au monde juif et grec, mais en prenant cependant le soin, nous venons juste de le voir, avec les deux communications précédentes, que le principe de double lecture, donc pratique métatextuelle élaborée, est commune, mais en prenant cependant soin de rappeler que l'Égypte n'avait nul besoin d'attendre dans ce domaine les Grecs ni les Juifs. Selon Porphyre, autre lecteur de Quérémon, les Égyptiens émettaient des raisonnements philosophiques sur les animaux, béliers, crocodiles, vautours, ibis, et pour terminer, Philon d'Alexandrie prête aux Égyptiens d'avoir enseigné à Moïse, à côté des sciences exactes et des arts, la philosophie des symboles dans les textes sacrés et dont font l'objet les animaux sacrés, ce qui fait écho au passage même de Porphyre. Il est même probable qu'il emprunte ce cliché à Quérémon, un de ses rivaux philosophiques, dans la confrontation qui, opposant Alexandrie les Juifs et les Grecs du gymnase, défraya la chronique entre 38 et 41. Bref, un tel raisonnement philosophique s'appuie sur des considérations au sujet de la faune, de la flore, voire de l'univers minéral, en d'autres termes, sur des processus inhérents à la nature, mais corrélés d'un point de vue philosophique à des faits mythiques. Certes, plusieurs siècles après Plutarque, qui disparaît vers 125, il n'y a plus d'autre moyen d'accéder au contenu des textes égyptiens que par l'intermédiaire du grec, puisque l'écriture hiéroglyphique connaît ses dernières heures affilées dans une inscription datée du 24 août 394. Ce nonobstant, il semblerait bien que l'activité intellective à laquelle se livre l'auteur des Hieroglyphica associe celle du philosophe alexandrin à celle du dévot d'Isis, philosophe, du moins tel qu'il se la représente. On peut invoquer le propos de Plutarque, Isis-Osiris 3, 352c, adressé à Cléa au début de son Isis et Osiris. Celui-ci, en se fondant sur le modèle tripartite des cultes à mystère, les choses prononcées, donc les legomena, les choses présentées, deignumena, les choses faites, dromena, en d'autres termes, les paroles, les objets de culte et des actes rituels, écrit. Je cite, « En effet, Cléa, l'habitude de laisser croître la barbe ou de revêtir un manteau usé ne fait pas les philosophes, non plus que la robe de lin et le fait de se raser ne fait les isiaques. Mais l'isiaque, en vérité, est celui qui, quand il a appris par la tradition ce qui est montré, l'eichnumena, et ce qui est effectué, dromena, au sujet de ces dieux-là, est celui qui s'efforce de comprendre par la raison, donc logos, et en philosophant au sujet de la vérité qu'ils contiennent. » Fin de la citation. Le contexte montre qu'au Apollon, Isiac, probablement lui-même, n'aurait pas démenti cette profession de foi médio-platonicienne, égypto-grecque, dont l'Isis et l'Osiris fournit le modèle. Le contenu des hiéroglyphica attribués à un certain or Apollon Iliac constitue, avec une réflexion sur les mythes et les interdits, sur les axes de la réflexion philosophique égyptienne définie plus haut. Une telle tradition était illustrée, notamment par les hiéroglyphica attribués à Kérémon, une œuvre uniquement connue par un résumé dû au moine Jean Tsetses et évoquant 18 hiéroglyphes. Le résumé de Tsetses prouve que le livre figurait encore dans une bibliothèque de Constantinople au XIIe siècle, mais l'ouvrage est déjà attribué par l'onomatolagos de Désicus de Milet, donc 7e siècle, à Kérémon. Présenté par Tsetses comme un hiérogrammate, une assertion remontant à Eusèbe de Césarée, qui ferait plutôt de lui quelqu'un capable, en tout cas selon Clément d'Alexandrie, de pratiquer l'écriture hiératique. Il faut signaler qu'au vu de l'influence intellectuelle de Kérémon sur Clément, le classement des écritures égyptiennes et la caractérisation de l'écriture hiéroglyphique pourraient être originaires des hiéroglyphica du dit Kérémon. On observera que Clément ne donne de précision dans cette description magistrale, conjuguant la maîtrise du sujet et la réflexion ni sur l'écriture épistolographique, écriture démotique ou encoriale, ni sur l'écriture hiératique. Il développe en revanche l'écriture hiéroglyphique qu'il subdivise en syriologique ou lettres et en symbolique, cette seconde catégorie étant subdivisée, je veux dire, en trois, syriologique par mimésis, tropique par les anaglyphes et énigmatique. Bien que partielle, une telle information doit être empruntée à un ouvrage spécialisé sur les hiéroglyphes, auquel cas Kérémon, dont les hiéroglyphica auraient pu contribuer à l'idée que les hiéroglyphes pouvaient être employés dans un sens symbolique et allégorique, serait un excellent candidat. Mais voir dans cette œuvre, d'après les vestiges évoqués par Tsetses, une matrice possible du texte de Apollon, sort peu conforté, car sur les 18 hiéroglyphes en question, seuls 4 peuvent se recroiser avec ceux de Apollon, dont certains à y regarder de près de façon problématique. Tandis que d'autres, bien que sous une forme simplifiée, s'accordent en parallèle plutôt avec ceux de Plutarque ou de Clément. Naturellement, je ne m'aventurerai certes pas sur le terrain de la question de l'auteur réel des hiéroglyphica. Cependant, il faut juger vraisemblable le fait qu'Apollon II considère au Ve siècle comme le dernier rejeton d'une lignée de philosophes et figure emblématique en tant que martyr des traditions opposées au christianisme, pouvait raisonnablement passer pour un passeur crédible du contenu des hiéroglyphica considérés par ce cercle alexandrin comme formant les vestiges de l'héritage de la dite philosophie sacerdotale égyptienne, celle des anciens hiérogrammates, placés sous le patronage de l'Isis philosophe de Ménitis, et dont les éléments émaillent divers aspects de la pensée médioplatoniste orientaliste telle qu'elle est portée par Plutarque. Je vous remercie.